Orchamp. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Orchamp ce soir en compagnie de David Valla. David Valla, merci beaucoup d'avoir accepté de parler pour la première fois. Comme tout le monde, je lis les journaux et comme tout le monde et comme beaucoup de monde, je pense, j'ai lu cet article dans Le Monde daté du 26 février 2015 où vous acceptiez de raconter votre histoire à un journaliste à Lyon. Et donc je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes né où ?
À Saint-Priest, en 71. Alors, tout d'abord, c'est moi qui vous remercie également pour votre invitation. Donc, je suis né le 26 juin 71 à Saint-Priest, la banlieue limitrophe de Lyon.
Vous avez été élevé avec quelles valeurs ?
Républicaine, hein, je suis un enfant de l'école républicaine. Le père de ma mère était un activiste communiste très engagé, donc il y avait une partie de cette culture-là dans les propos politique qui pouvait se tenir à la maison, même si c'était très très rare, hein, finalement.
Donc vos parents n'étaient pas particulièrement politisés ?
Non, non, non.
Laïque ?
Laïque, mais avec une liberté de conscience mise en vigueur tous les jours. On n'entendait pas, ni ma mère, ni qui que ce soit de ma famille, nous imposer telle ou telle idéologie, hormis le respect de nos professeurs à l'école.
Et l'école, vous l'avez continuée jusqu'à quand ?
J'ai arrêté à 16 ans. Dès que j'ai su que ça n'était plus obligatoire, je suis sorti du cursus scolaire.
Pourquoi ?
Le peu d'intérêt, finalement, et l'inadaptation de ma façon de penser au cadre scolaire. Et il y avait un vrai décalage.
Pourquoi ? Parce que les copains, c'était plus important ?
Il y a un peu de ça, effectivement. Et puis, j'ai pas trouvé comment m'épanouir dans les études, finalement. Je me suis pas senti très à l'aise.
Vous n'avez pas rencontré un prof qui ait cru
non,
en vous ?
Non. Enfin, il faut quand même d'abord croire en soi pour qu'un prof croie en vous. Et j'avais pas vraiment l'intention de sortir diplômé de l'école, hein, du tout.
Mais pourquoi vous croyez si peu en vous ?
C'est plutôt l'inverse. En fait, je me sentais capable de réussir sans diplôme. C'est très orgueilleux, mais on a cet orgueil-là quand on est jeune, bien souvent.
Et vous vouliez devenir quoi ?
J'ai pas d'idée préconçue. Réellement, alors, je me destinais à l'architecture. Avant d'avoir pris le chemin pour lequel je suis là aujourd'hui, du moins pour en témoigner. Donc, je suis sorti du cursus scolaire à 16 ans et à 19 ans, je décide d'y retourner parce que je me rends bien compte que c'est une impasse finalement de se présenter sur le marché du travail sans diplôme, sans connaissance, sans réseau. Il faut absolument être diplômé pour pouvoir travailler correctement et faire quelque chose que l'on aime. Donc je reprends le chemin de l'école à ce moment-là pour préparer un diplôme d'assistant d'architecte.
Et alors, que se passe-t-il à ce moment-là ?
Il y a les événements de Bosnie. Alors, pour recadrer un peu le propos, à 15 ans, on nous fait voir Nuit et brouillard au collège. Et je pense qu'on a manqué d'analyse, on a manqué de décryptage des images. Ça a vraiment été reçu très violemment me concernant.
Qu'avez-vous ressenti quand vous avez vu le film de René ?
Un peu ce qui motivait peut-être, sans faire de la psychologie de bazar, ce qui était l'un des axes de mai 68. Finalement, c'est l'autorité du père que l'on voulait abattre à l'époque pour avoir découvert ce qu'avait été l'attitude du plus grand nombre durant l'occupation. Donc je me sentais de ne pas rester inactif si d'aventure l'histoire devait avoir le hockey.
Et vous en avez parlé aux copains ou aux profs après la projection ?
Très peu. Alors, j'ai présenté un sujet à l'époque sur un livre de Robert Merle qui s'appelle « La mort est mon métier » où je me suis retrouvé à avoir presque de l'empathie pour le héros du livre qui se retrouve chef du camp de concentration d'Auschwitz. Et je me rends bien compte que la vertu n'est pas naturelle, qu'elle doit se rechercher. On peut faire partie d'un groupe qui commet les pires exactions sans s'en rendre compte. Sans se sentir sortir de l'humanité, c'est un peu ça. Bon, ça a été un flop total, mes camarades ont trouvé le sujet complètement décalé, ça les a pas intéressés. Ma prof m'a très bien noté, et je me rappelle de la note encore, c'était 17 sur 20. Mais c'était complètement décalé par rapport à l'âge que nous avions, ce qui était nos ambitions.
Donc à 16 ans, vous quittez le collège.
Oui.
Et vous faites quoi alors? Vous cherchez du boulot?
Non, je fais beaucoup d'âneries. Je traîne avec les amis, c'est un peu le désœuvrement. J'habite à l'époque Villefontaine, qui est dans le Nord-Isère. C'est un peu une zone de délestage de la grande banlieue lyonnaise. Alors, jusqu'à 15 ans, c'est très très bien. C'est bucolique, il y a des espaces verts, des stades de foot, tout ça. Mais à partir de 15 ans, si vous n'êtes pas véhiculé, vous vous ennuyez très très vite. Alors, il suffit que dans le groupe, il y en ait un qui ait des idées un peu farfelues, avec un peu d'ascendant sur les autres, et puis on se retrouve à faire mille et une âneries, finalement, pour passer le temps.
C'est-à-dire ?
L'un de nos jeux préférés, c'est lorsque nous pouvions voir passer un véhicule de la gendarmerie, était de courir, alors que nous n'avions rien fait, uniquement pour qu'il se mette à nous courir derrière. C'est un peu le jeu du chat et de la souris, sauf qu'on n'avait pas de bout de fromage de voler dans la poche, c'était juste pour passer du temps.
Et ça, ça dure combien de temps ?
Ça dure jusqu'à 19 ans.
Toujours chez les parents ?
Toujours chez ma mère, oui.
Et elle dit quoi, votre mère, à vous voir traîner ?
Elle accueille ma conversion sous très bons augures, puisque j'arrête.
Alors attendez, vous convertissez à quoi, comment et pourquoi ?
Je me convertis à l'islam, à 19 ans. Un islam...
Déjà, entre 16 et 19, qu'est-ce qui se passe pour que vous arriviez à la conversion ?
Alors, je me rends bien compte que j'ai trois options devant moi. Soit le banditisme, parce que c'est un peu ce à quoi se destinent la plupart de mes amis. Soit le prolétariat, soit le retour aux études. Et pour pouvoir se cadrer dans l'existence, pour pouvoir couper court à ce que peuvent être les incitations, les propositions de virer avec ses amis, des choses comme ça, ça m'a permis de me cadrer, ça m'a permis de couper court à toutes ces âneries et de reprendre le chemin de l'école, finalement. Ça m'a cadré, c'est le terme.
Et comment ça s'est passé ?
Une curiosité. J'ai beaucoup d'amis qui sont de culture musulmane, et très peu, finalement, en savent sur leur religion. C'est vraiment du culturel, c'est du traditionnel, c'est un legs familial, c'est un héritage. Ça relève pas d'une recherche, ça relève pas d'une volonté de comprendre. Et je me rends bien compte, aux réponses qu'on me donne quand je pose des questions, que finalement, mes interlocuteurs ne seront pas mes proches. Et je commence à lire énormément.
Le Coran ?
Oui. Qui me désarçonne.
Dans quelle version ? Dans quelle traduction ?
Alors, c'est Kazimierski aux éditions Flammarion.
Et vous trouvez facilement ?
Je le dérobe à la bibliothèque. C'est scandaleux de le dire. Mais j'ai pas les moyens de l'acheter, parce que j'ai pas l'intention de commettre plus de délits que ça, on va dire, pour me faire de l'argent de poche, puisque ça relève de ça. Donc je le dérobe, enfin j'oublie de le rendre, pour être précis, à la bibliothèque.
Parce que vous avez besoin de le lire tout le temps.
Voilà, j'ai besoin de savoir quelle est finalement la culture des familles de mes amis, quelles sont leurs croyances, quelles sont leurs raisons de penser qu'il y a un au-delà ou pas d'ailleurs. Mais j'entends bien que les réponses qu'on me donne parmi mes amis ne sont pas celles qui pourraient être celles que j'attends finalement. C'est superficiel, ça relève...
Et vos amis lisent le Coran comme vous, avec autant de passion ?
Non, je suis le premier à le faire... dans ma cité.
Et vous faites quel type de chemin intérieur en lisant ce Coran ? Parce que c'est pas évident.
Que finalement, c'est pas un chemin de rupture. Lorsque vous êtes croyant, chrétien, j'appartiens pas à l'Église apostolique et romaine.
Non, à la civilisation chrétienne.
Voilà. On vous demande pas de renier ce qui peuvent être vos croyances lorsque vous êtes chrétien. Ça s'inscrit dans une continuité, finalement. C'est ma découverte. Et je vois que la place faite aux autres croyants, tout comme aux non-croyants, d'ailleurs, est une place qui relève de la liberté de conscience, finalement. C'est plus tard que le discours dégénérera concernant cette religion. Mais le premier contact que j'en ai, c'est vraiment une religion qui apporte des clés d'apaisement, finalement, personnel. Et c'est plus tard qu'on bascule dans le politique.
Et quand vous lisez le Coran tous les jours, est-ce que vous avez besoin d'aller confronter votre point de vue avec d'autres personnes, de rentrer dans une mosquée, d'aller voir des clercs ?
C'est ce que je fais, effectivement. Alors, j'ai la chance d'avoir un voisin qui était avocat en Turquie, qui a fui la dictature des militaires après le coup d'État de 1974, qui a un accent à couper au couteau, mais qui est resté avocat dans l'âme. C'est-à-dire que lorsque je lui pose des questions, il me répond avec simplicité et clarté. J'ai aussi la chance de rencontrer un étudiant en physique nucléaire algérien qui a un esprit de synthèse éblouissant, hein, ni plus ni moins, et qui savent les deux m'apporter des réponses très claires. Parce que je suis quelqu'un qui aime pas à cet âge-là le sens de la nuance, hein. On est un peu monolithique, on est un peu manichéen, mais il m'apporte un sens de la subtilité qui ne m'apparaît pas de prime abord lorsque je lis ce livre, qui est complètement désarçonnant. Si vous n'avez pas les outils pour le lire, c'est un peu comme un cheval sauvage, hein. Il vous jette à terre et puis il faut insister, remonter, jusqu'à ce qu'il daigne bien vous amener là où vous avez besoin d'aller.
Et donc cette lecture du Coran vous soustrait-elle au monde réel ? Est-ce que vous vous isolez pour essayer de comprendre, comprendre, comprendre ?
Non, non, l'isolement... Alors, je crois percevoir ce vers quoi vous voudriez peut-être que je développe le propos.
Non, pas du tout, je n'ai aucune intention, je voulais savoir si...
Il n'y a pas de rupture.
Si ce chemin était intérieur et...
Tout à fait, vraiment intérieur.
Et quand ce cheminement intérieur, on peut peut-être parler de ça, quand je vous écoute, cheminement intérieur dans ce texte, est-ce que ce cheminement intérieur, vous avez déjà l'idée qu'il pourra devenir un engagement collectif plus tard ?
Pas encore. Ce sont les
c'est pour vous, en vous, que ça se passe.
Ce sont les événements de Bosnie qui me font prendre conscience qu'il y a de nouveau, en Europe, des exactions commises contre des civils qui sont pris pour cible, indéniablement. On a des témoignages qui relèvent de la barbarie, ni plus ni moins. Et au départ, je me refuse à y croire. Je pense que les images que je vois circuler dans certaines mosquées, sous le manteau...
Donc vous allez dans les mosquées déjà?
Oui, c'est les mosquées des Chibani, avec les anciens. La première rupture se fait lorsque je vois les plus anciens de la mosquée de mon quartier disparaître pour laisser la place aux jeunes. Et c'est là que le discours se politise. Et concomitamment arrivent les événements de Bosnie. Donc c'est un peu comme si plusieurs éléments s'étaient mélangés pour donner une effervescence.
Mais comment vous, de la lecture que vous faites du Coran, chez vous, comme cheminement intérieur, comment vous entrez dans la religion pour aller à la mosquée, pour aller aux prières, pour faire les prières? Comment ça se passe pour
simplement,
vous?
Simplement, il n'y a pas de catéchèse, il n'y a pas de... On vous demande de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous reconnaissez que Mahomet est le dernier prophète et ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça. Rien de compliqué.
Et là, la machine collective commence à jouer à plein ou pas?
Pas encore.
C'est vous tout seul.
C'est moi qui me remonte le bourrichon, pour reprendre une expression que la plupart des gens comprendront. Mais la bascule se fait lorsque je réalise que les exactions qui sont relayées en termes de propagande dans certains visionnages de cassettes sont confirmées par des témoignages de personnes dont on peut penser qu'elles sont plus objectives. C'est notamment un témoignage d'une médecin sans frontières sur France 3 qui dit que ce qui se passe comme nous étant présenté comme des opérations de police de maintien de l'ordre ne sont ni plus ni moins que des exactions terribles commises notamment en Bosnie-Herzégovine et qu'elle-même a été témoin de crimes qui relèveront certainement de crimes contre l'humanité. Et nous sommes au mois de novembre 92. Et dans la culture familiale, j'entendais que la violence puisse ne pas être absente du champ politique, du champ d'action politique. Pour moi, ça semblait naturel de prendre les armes aux côtés des Bosniaques, tout comme aurait pu le faire mon grand-père pour le Front Populaire Espagnol. J'imagine pas que ça puisse être absent de mon parcours que d'aller combattre là-bas. Et la foi, elle...
Au nom de l'islam ?
Non. C'est bon, la foi
au nom de votre appartenance à votre...
Au nom de ses convictions qui
citoyenneté.
Font que, voilà, on ne peut pas laisser se perpétrer de tels crimes. L'histoire me donnera raison, d'ailleurs, puisque on a créé le Tribunal Pénal International de La Haye.
À cause de ça.
À cause de ça, justement. Parce que le niveau de violence qui est agi contre les civils est tel que je considère que chaque jour passé est une complicité quelque part. Et puis quand j'entends le discours plein de cynisme ou plein de réel politique, finalement, de nos représentants politiques de l'époque. Quand j'entends notamment Simone Veil qui revient du camp de Prijedor et qui dit qu'on ne peut pas libérer les camps de Yougoslavie comme on l'a fait avec l'armée rouge en 45, je le prends comme une déclaration selon laquelle les civils n'ont plus rien à attendre de qui que ce soit dans le monde. C'est l'opinion internationale les a laissés tomber. Notre président qui a été en août 92 sur place revient avec l'idée de mettre en place un couloir humanitaire alors que ce sont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui sont perpétrés. Donc j'entends ne pas rester le cul sur ma chaise si vous me permettez l'expression. Et finalement ma foi ne me permet que de trouver le courage nécessaire. Mais la conviction est là. Ça n'est pas une radicalité religieuse qui me fait aller sur place. C'est sur place que la radicalité, notamment du courant wahhabite, parce que c'est les seuls que je vois, Je vois pas de républicains, je vois pas de démocrates, je vois pas de défenseurs des droits de l'homme. Et je vois que, objectivement, les barbus venir prêter main forte aux Bosniaques.
Mais comment vous faites pour y aller ?
Avec des amis, tout simplement.
C'est facile ?
À l'époque, oui, c'est facile. Sauf que le souci que nous avons, c'est qu'au départ de Lyon, nous sommes 9 à y aller dans 2 véhicules. Le jour de notre départ, la Bosnie et la Croatie sont alliés contre la Serbie. Sauf qu'en trajet, les deux pays se déclarent la guerre. Puisque la Bosnie n'entend pas mettre ses unités combattantes régulières sous commandement croate du président Tudjman. Donc les deux se déclarent la guerre. Et précédemment, si nous y avions été une semaine plus tôt, les milices du HVO croate nous auraient amenés jusqu'aux unités combattantes bosniaques. Sauf que le climat a changé lorsque nous arrivons. Donc, au bout de 48 heures, nous passons à côté de la mort à plusieurs reprises. Hein. Et pendant près de 3 semaines, quasiment un mois, nous essayons de rejoindre les unités combattantes bosniaques sans y parvenir. Et je me rends bien compte que les seuls alliés objectifs de terrain, parce que j'entends être efficace militairement sur place pour combattre les unités paramilitaires, qui plus est...
Mais vous ne savez rien de l'armée.
J'ai effectué préalablement mon service militaire, qui était encore obligatoire en France, pour avoir été chasseur alpin pendant 10 mois. Et c'est vraiment un corps d'élite. On m'a très très bien formé, excellemment bien même, je dirais. La seule carence que j'ai dans mon entraînement, ce qui explique mon départ pour l'Afghanistan plus tard, c'est que je ne connais pas le matériel russe qui est utilisé exclusivement en Yougoslavie. Mais j'ai une très bonne formation militaire. J'entends être efficace rapidement sur place. Sauf que je n'arrive pas à rejoindre les unités combattantes bosniaques. Alors sur place, il y a tout un tas de gens qui essayent de passer, tout comme nous. Un groupe avec lequel nous avons fait connaissance d'une douzaine de jeunes, parce que la moyenne d'âge n'excède pas 25 ans, qui lui vient de la péninsule arabique. Alors, on a des Qataris, des Saoudiens, des Yéménites, qui eux aussi entendent rejoindre les unités combattantes bosniaques. Nous allions nos forces et nos informations pour pouvoir passer, mais pas moyen. Pendant plus d'un mois, on se heurte à des difficultés à tel point que l'un de nous se ferait égorger dans un bus pour avoir essayé d'ouvrir une voie. On tire ça à la courte paille et ça tombe sur lui. Et tous, nous sommes jaloux que ce soit lui qui y aille en premier. Et nous savons le lendemain qu'il sera égorgé par une milice, le HVO, aux abords immédiats de Mostar. Donc, nous revenons en France. Moi, je suis complètement... je sais pas si je ne suis pas quelque part en mode Koulibaly ou Kouachi. C'est-à-dire que j'ai cherché à rejoindre une zone de guerre pour y être un membre actif, un soldat actif. Je n'ai pas réussi à concrétiser cet objectif-là. Et je reviens un peu avec l'idée de ne pas en rester là. Donc, un ami me dit, celui que nous devions rejoindre en Yougoslavie rentre en France. Il me dit que les unités bosniaques sur place n'entendent plus coopérer avec les Arabes, du moins ne plus avoir d'unités où les Arabes volontaires, les djihadistes volontaires et les soldats bosniaques sont mélangés, parce que les soldats bosniaques combattent pour survivre, les volontaires au djihad combattent pour mourir, pour le martyr. Et il y a une vraie distorsion et des objectifs et de la manière de les obtenir.
Mais là, vous aviez déjà choisi de devenir djihadiste.
Oui.
À quel moment ?
Sur place. C'est le terrain qui m'a fait me radicaliser. Puisque lorsque vous arrivez en zone de guerre, vous ne découvrez jamais ce à quoi vous vous êtes préparé. Quand bien même vous avez pu vous abreuver de lecture, que la réalité prend le relais, violemment, totalement, brutalement. C'est très rapide. Donc vous êtes vite dans un bain qui vous fait comprendre que votre vie ne tient qu'à un fil.
Qu'est-ce qui se passe physiquement, mentalement, quand vous arrivez ?
La montée d'adrénaline. Nous sommes faits, par exemple, prisonniers à un checkpoint. Tout se passe bien pendant les quelques premières minutes de la
Mais vous êtes engagé, David Valla, en tant que djihadiste.
J'entends l'être, mais je n'arrive pas à rejoindre les unités combattantes. Vous n'êtes djihadiste que lorsque vous combattez. L'intention ne suffit pas. Il faut vraiment être sur le front.
Et mais comment on se fait engager ? Il faut bien dire à des gens qu'on veut se faire engager, y compris en sachant qu'on va mourir.
Mais sur place, à l'époque, on interviewe Eliza Izetbegović, qui est le président bosniaque, et on lui demande s'il ne fait pas une erreur d'intégrer les volontaires internationaux, tous d'origine musulmane, hein, à 99%, en lui faisant presque miroiter une menace d'avoir intégré des djihadistes qui seraient sur le territoire européen. Sauf que lui rétorque que pour l'instant, personne ne vient l'aider, que ce sont les seuls volontaires à aller sur le terrain et qu'il ne peut pas se passer de gens capables de faire en 3 semaines alors que ces unités restent bloquées pendant 3 mois. C'est-à-dire que y a, militairement, ils sont d'une efficacité redoutable, les djihadistes. Ils sont vraiment, il fait pas bon être milicien serbe et croiser une équipe de 12 volontaires au coin d'une forêt. Vraiment pas. Ce sont des gens très déterminés.
Mais c'est pas le djihad qui les rend déterminés, c'est leur expérience militaire.
Non, c'est, vous ne gagnez un combat que lorsque vous l'avez déjà gagné avant d'y aller. Peu importe les moyens que vous avez, peu importe le matériel dont vous disposez, il faut avoir la volonté de vaincre. C'est vraiment là que se trouve la clé du combat. Aujourd'hui, nous avons une situation, par exemple, en Syrie, où quelques clampins, finalement, arrivent à faire tomber des villes parce qu'en face, nous n'avons pas de gens qui ont la même détermination. Ils sont pas équipés de super matériel, ils disposent pas, ils n'ont rien de ce qui puisse voler, pour commencer, n'ont pas de missiles sol-air, n'ont pas de missiles sol-sol, mais pourtant, ils remportent des villes parce que c'est une histoire de détermination. Si vous êtes déterminé, vous ne laissez aucune place au doute, vous pouvez obtenir des résultats sur le terrain.
Mais la détermination vient-elle de la possibilité de savoir qu'on peut en mourir ?
Elle s'impose à vous. De toute façon, vous ne pouvez pas prendre ce chemin-là sans que l'option mort soit validée.
Bah alors expliquez-nous pourquoi et comment vous avez accepté, David Valla, de combattre en tant que djihadiste en sachant que vous pouviez mourir.
Parce que ça fait partie de l'ordre des choses. On ne peut pas
mourir, vouloir... ça fait pas partie. Vouloir mourir, ça fait pas partie de l'ordre des choses.
Pas vouloir mourir, mais accepter que ça puisse être le cas lorsque vous allez en zone de guerre pour vous-même combattre. On ne peut pas vouloir miser de l'argent au jeu si on n'est pas prêt à perdre. On ne peut pas vouloir s'engager.
Donc,
dans un
mourir,
combat.
C'est perdre. Alors, c'est pas aller au paradis.
C'est ensuite qu'on vous vend cette escroquerie mentale, finalement, de vous dire que vous allez au paradis si vous mourrez sur ce chemin-là, parce que c'est réellement une escroquerie. C'est vraiment le message que.
Mais on vous l'a dit.
On me l'a dit, mais à l'époque, vous vous y raccrochez, parce que quelque part, c'est une façon que vous avez de maîtriser la terreur que vous confère de penser mourir anonymement. Vous allez vous retrouver un cadavre caché derrière un buisson en état de putréfaction si on vous retrouve quelques semaines après. Et ce sera peut-être un défi pour les historiens, ne serait-ce que de vous identifier. Donc, faut accepter de mourir anonymement, peut-être de torture, de mauvais traitements, après de longues heures de souffrance, si vous êtes amputé au front, vous avez une artère qui fuit. Enfin, faut vraiment accepter le pire des scénarios, et le pire scénario possible, c'est de mourir. Si vous n'êtes pas prêt à ça, vous n'avez pas le courage nécessaire. Vous rentrez.
Quel type d'embrigadement avez-vous subi ?
C'est pas le terme. Oui, je voulais justement rebondir là-dessus. C'est moi qui l'ai...
Avez-vous accepté ?
Je l'ai assimilé, cette idéologie, pour finalement compenser le manque de soutien, le peu de matériel disponible sur place. Vous êtes obligé de compenser ce manque d'alliance et ce manque d'accès à un matériel efficace par une détermination sans faille. Mais vous ne pouvez l'avoir que si vous acceptez que votre mort se trouve peut-être derrière le buisson qui est devant vous à 50 mètres ou derrière la pierre qui est à côté sur la droite. Vous ne pouvez être déterminé et obtenir des résultats que si vous faites abstraction ou plutôt que si vous acceptez l'idée de la mort. C'est pas une abstraction, c'est vraiment
l'acceptation. Mais ça, c'est à l'intérieur de soi. C'est pas un embrigadement idéologique.
L'embrigadement, il se fait naturellement, j'ai envie de dire. Mais j'étais de ceux qui n'avaient pas besoin d'être embrigadés puisque sachant ce pourquoi ils étaient là. Pour moi, le prosélyte est celui qui doute, finalement. Celui qui veut vous convaincre a besoin que vous soyez convaincu pour l'être lui totalement. C'est un peu là que je me situe en électron libre sur ce chemin-là, c'est que j'ai bien vu les mécanismes de l'embrigadement agir sur mes camarades, mais personnellement, j'avais pas besoin de ça. Je savais pourquoi j'étais là.
Et vos camarades aussi ?
Je les ai sentis peut-être plus hésitants, peut-être un peu moins clairs sur les objectifs, et finalement se raccrocher à cette idéologie parce que ça leur permettait de tenir le choc, tout simplement.
Le choc par rapport à l'expérience quotidienne de la proximité de la mort et de durcissement de la vie.
Elle vous dit bonjour tous les matins, faut savoir l'accepter.
Et qui étaient vos chefs ?
Alors c'était souvent des vétérans de la guerre en Afghanistan contre l'Union soviétique. C'est d'ailleurs là que tout a commencé, à mon sens, réellement. Les cadres aujourd'hui de ce qu'est Al-Qaïda ou Daesh ne sont plus ces vétérans-là, mais à l'époque, c'était le cas. Sauf que l'idéologie, elle, est toujours la même. elle a tendance à se durcir avec le temps.
Mais là, vous la qualifieriez aujourd'hui?
C'est-à-dire
l'idéologie?
C'est une idéologie meurtrière, ni plus ni moins. Vous ne pensez pas comme moi, je vous élimine. C'est aussi bête que ça. Sauf que les idéologues de Daesh, plus ce conflit durera et plus on légitimera l'assassinat de civils, de femmes, d'enfants, de... On ira toujours plus loin dans l'horreur à chaque jour que continuera ce conflit. C'est un peu ce vers quoi ouvre cette idéologie, c'est on justifie, au nom de la religion, une ultra-violence sans limite. En réaction à une ultra-violence subie. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'en Syrie, le premier criminel, c'est quand même Bachar el-Assad. Il nous paraît plus fréquentable, hein, sous bien des aspects, mais ça reste quand même quelqu'un qui n'hésite pas à donner du canon contre sa population. Laquelle population tombera d'autant plus facilement dans les bras de ces extrémistes-là de Daesh qu'elle n'aura pas d'autre recours à invoquer, finalement. Même si ils changent la peste pour le choléra. Ils s'en rendent vite compte. Quand Daesh prend une ville, ils sont accueillis comme des libérateurs 48 heures, et puis le surlendemain, on comprend vite à qui on a affaire. Parce qu'il n'y a rien de religieux là-dedans.
Et le Coran, pendant toute cette période?
Le Coran, j'ai découvert que, finalement, on n'y trouve que ce que l'on est préalablement. Quelqu'un de pacifiste trouvera tout ce qui le confortera dans la paix qu'il entend instaurer autour de lui. Quelqu'un de belliqueux trouvera ce dont il aura besoin pour exercer la force ou la violence latente qu'il entend exercer. C'est-à-dire que le Coran en lui-même n'est ni belliqueux ni pacifiste, il est simplement le reflet de celui qui le lit, finalement.
Mais qu'est-ce qui vous faisait tenir? Et combien de personnes avez-vous tuées?
Personne tuée, pas que je sache, réellement.
Personne?
Non, non. Après, me croiront qui me croiront, moi je le sais, donc ça me suffit. Ce qui m'a fait tenir, c'était...
C'est peut-être parce que vous avez désiré ne pas tuer aussi.
Il y a aussi de ça, effectivement. La pire crainte que j'ai eue durant toutes ces années, ça a été de me retrouver dans un groupe qui aurait fait un prisonnier en se mettant en tête de le torturer, pour obtenir des informations. C'était vraiment la... Si j'avais dû énoncer la probabilité de me retrouver dans la position la plus dangereuse qui soit, aurait été celle-là. Ça aurait été vraiment... Parce que je sais que soit je m'y serais opposé et j'aurais fini avec le gars qui se faisait torturer, soit je ne m'y serais pas opposé et aujourd'hui il faudrait que je vive avec. Et j'ai heureusement jamais été exposé à ce genre de situation. Après, ce qui m'a fait tenir, c'était la conviction chevillée au cœur, à l'âme, à l'esprit, au corps, tout ce qui constituait ce que j'étais à l'époque, d'avoir raison. J'étais persuadé d'avoir raison. J'étais persuadé qu'il ne fallait pas qu'on laisse se perpétrer plus longtemps ce genre d'abomination sur le territoire européen. C'était vraiment ma première motivation. L'aspect religieux est venu ensuite pour me conforter dans, après tout, si je meurs, je serai récompensé sur cette voie-là.
Pourquoi êtes-vous rentré en France? Vous saviez déjà à l'époque que vous étiez un hors-la-loi et que vous alliez être recherché sur le territoire français, ce qui n'a pas manqué.
Alors, ça n'était pas le cas à l'époque. Vous pouviez vous rendre en Bosnie et revenir sans que cela constitue un délit. C'est le fait d'avoir été en Afghanistan et d'être revenu en France qui, pour le coup, là, a constitué un départ d'instruction me concernant, puisque j'ai été en contact avec des membres du GIA, le groupe islamique armé. Alors, pour faire simple, j'essaye pendant un mois de rejoindre les unités combattantes bosniaques, que je n'arrive pas à rejoindre. Donc il nous arrive mille et une péripéties sur place. La personne que nous sommes censés rejoindre sur place en Bosnie revient en France quelques deux mois après notre retour. Et il me dit que pour l'instant, c'est un peu le bazar, c'est vraiment le chaos. Les Arabes et les Bosniaques ne s'entendent pas du tout, qu'il va y avoir une réorganisation de toutes les unités combattantes régulière de l'armée bosniaque d'une part et des volontaires qui constitueront une brigade internationale. Il me propose, en attendant que ça se mette en place, d'aller suivre un entraînement sur le matériel russe, soit au Soudan, soit en Afghanistan. Le Soudan, j'ai pas vraiment la tête du cru, si ça tourne au vinaigre, je me fais repérer à des kilomètres, donc j'opte pour l'Afghanistan. Et je me rends sur place pendant plus de 9 mois dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda, pour me parfaire sur...
Que se passe-t-il dans ce camp?
L'entraînement, tous les jours, quotidien, sur tout type d'armes. Il y a très peu d'idéologie finalement, mais le fait d'être avec des jeunes armés, de discuter politique, objectif, origine, tout ça, fait que Dans le groupe, il y a une émulsion qui finit par laisser sortir une ligne politique de la prise du pouvoir par la violence. C'est ce vers quoi ça vous mène finalement. Vous n'êtes pas là à vous entraîner sur des armes pour passer par les urnes électorales. C'est antinomique.
Mais vous n'en parlez pas. Vous le comprenez, mais vous n'en parlez pas. Tellement.
Non, c'est finalement.
L'entraînement est dur.
Très très dur. On vous laisse très peu le temps de réfléchir. Alors vous êtes constamment avec la faim et le manque de sommeil. On vous entraîne
exprès
parce que c'est pas simplement pour
pas
que
de drogue.
Vous... Non.
Parce que souvent on se dit est-ce qu'il y a de la drogue? Est-ce qu'on les drogue?
Non. Pour ce que j'en ai vu, de ce que j'ai vu de ce parcours-là, durant plusieurs années, j'ai pas vu de comportement toxicomaniaque ou à grand renfort de psychotropes. C'est vraiment l'autodétermination. Mais le fait de ne pas manger correctement, de ne pas dormir correctement, vous forme à être efficace en zone de guerre parce qu'il y a très peu de livraison de pizza dans les tranchées. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire qu'il faut prendre les bonnes décisions, radicales et efficaces, ultra-violentes, que ce soit dans l'attaque ou la défense, même si vous n'avez pas dormi 3 jours et pas mangé 1 semaine. Il faut vraiment être efficace là-dessus. Donc au bout d'un moment, votre cerveau s'adapte, votre réflexion s'adapte. C'est un peu comme le randonneur qui, dans son esprit, fait un peu comme dans son sac, il se défait du superflu. On enlève la bouteille d'eau qui sert à rien, on enlève la deuxième paire de baskets qui sert à rien, on enlève les lectures qui servent à rien. Et au final, on n'est plus concentré à la fois et sur l'objectif et sur les moyens d'y accéder.
Donc le corps s'aguerrit, mais
oui.
L'esprit...
L'esprit reste déterminé, puisque tout est fait pour que ce soit le cas.
Mais c'est une forme de conditionnement.
Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, effectivement. Alors, pour apporter un bémol, il y a quand même eu la visite pendant une semaine, nous avons eu la visite du rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelait Le Djihad, distribué dans la péninsule arabique, le Pakistan, l'Afghanistan. Et ce gars entendait, à l'époque, que le Djihad commence au Tadjikistan. Et de tous les 70 jeunes que nous étions à l'époque, j'étais le seul à ne pas l'avoir écouté une seule fois, parce que ça ne m'intéressait pas. Et il vient un soir me parler en aparté, en me demandant si ce qu'il raconte ne m'intéresse pas finalement. Et je lui dis que je n'ai pas besoin de son discours, parce que je sais pourquoi je suis là. Je me destine à être efficace pour le jour où je retourne en Bosnie. Donc sur place, il y a une autre particularité de cette mouvance, c'est que les Algériens sont à part. C'est vraiment une communauté dans le djihad qui est crainte et respectée. C'est-à-dire que nous pouvons nous laisser gagner par la peur, par la plupart des barbus. Il faut savoir qu'eux-mêmes ont peur des Algériens. Parce qu'ils sont réputés pour être d'une détermination et d'une capacité de dénouement dans l'efficacité. On peut ne pas nourrir un groupe d'Algériens pendant 3 ans, 3 jours du moins. Et le jour où ils passent à l'action, ils seront très efficaces, très déterminés. Et sur place... Les Algériens...
Ça veut dire qu'on traite les hommes comme des bêtes, quand même. Hein?
C'est un peu ça. Mais on les prépare à ce qui les attend en zone de guerre. On n'est pas là pour faire du farniente. Si vous allez en zone de guerre, c'est pour tuer ou être tué. C'est aussi bête que ça. Il faut être efficace. On parle d'art de la guerre, mais c'est pas un art. Mais il y a des façons de s'entraîner qui font que vous aurez la vie sauve ou pas. Que vous le laisserez attraper ou pas. Que vous serez efficace ou pas.
Adhérez-vous au GIA?
Alors, lorsque je reviens en France, la personne qui m'a envoyé en Afghanistan n'est plus joignable. Et le réseau qui est censé m'envoyer en Bosnie a été démantelé. Je pense que c'est le cas, du moins à l'époque. Et sur place, les Algériens en Afghanistan m'ont pris sous leur aile et m'ont empêché de tomber entre les mains des services pakistanais. Parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur l'implication des services pakistanais dans les camps d'entraînement d'Al-Qaïda à l'époque. Je les ai vus, moi, tenir bureau au camp de Khalden, en zone tribale afghane, qui était sous contrôle du Hizb Islami de Hekmatyar, financé par Al-Qaïda, donc Ben Laden, et supervisé ou chapeauté ou encadré ou surveillé par les services pakistanais. Donc, les Algériens me permettent de ne pas tomber entre leurs griffes et de revenir en Europe sain et sauf. Une fois que je me rends compte que la filière pour la Bosnie est démantelée, je décide de soutenir mes coreligionnaires algériens.
Et donc, vous engagez dans le GIA?
C'est ça. Mais en électron libre, je n'ai jamais fait de serment d'allégeance. Jamais fait de BA.
Et vous êtes pris par la police?
Le 31 août 1995.
Ensuite? Ensuite, vous allez être jugé.
Poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. On ne me reproche rien dans la commission des attentats de l'été 95 sur le territoire français. Finalement, je bénéficie entre guillemets de la jurisprudence Bob Denard, qui fait que lorsque l'on détermine, on arrive à prouver que vous avez fait partie d'une mouvance classée terroriste à l'étranger, vous êtes passible de poursuites judiciaires sur le sol national français, même si vous n'avez rien commis qui soit illégal. Le simple fait d'appartenir à ce genre de mouvance, à l'époque, peut vous valoir d'être poursuivi. Donc c'est ce qui m'arrive.
En décembre 97, vous êtes jugé.
Oui. Au-delà du réquisitoire du procureur. Donc
condamné.
Condamné à 7 ans. En première instance, j'interjette appel et l'année suivante, on retranchera une année à ma première condamnation.
Donc, alors, qu'est-ce qui se passe en prison pour vous? D'abord, est-ce que, puisque c'est un débat qui fait fureur en ce moment, hélas, est-ce qu'il faut mettre les djihadistes ensemble dans la prison? Comment êtes-vous accueilli par les autres prisonniers?
Alors, j'aimerais souligner le fait que je viens en détention pour cette radicalité. Ce n'est pas la détention qui me radicalise. Donc, j'ai un parcours différent de ce que peut être celui de certains jeunes qui sont passés à l'action violente. C'est-à-dire que ils rentrent pour des actions de droit commun et se radicalisent en détention. C'est exactement le chemin inverse que j'ai pris puisque je me suis déradicalisé en détention. C'est-à-dire que j'arrive gonflé à bloc. J'ai un esprit hyper belliqueux.
Et considéré comme un héros par certains?
Un peu le Robin des Bois, le gars qui est contre le système et qui n'hésite pas à mettre sa vie en danger. On jouit d'une aura dont on se passerait bien finalement. Parce que on demande des fatwas, des avis sur un tas de choses. Et je me rends compte à l'époque de la cruelle nécessité de former des aumôniers. Parce que on ne peut pas ne pas demander à des gens en détention de se priver d'une introspection. C'est le but recherché.
Et de réfléchir et d'apprendre.
Voilà, la réclusion prête à se poser des questions spirituelles. On a beau être un voleur, qu'il n'empêche qu'on puisse être croyant. On a beau être un assassin, qu'il n'empêche qu'on puisse croire à l'au-delà. Pour peu que votre interlocuteur sente en vous une faille, parce que c'est exactement ce qui se passe avec le recrutement en détention, il va d'abord vous parler de religion, stricto sensu, et ensuite il vous inocule un discours politique, en vous donnant l'impression de comprendre le monde dans sa globalité. Parce que c'est un peu ce que vend l'idéologie djihadiste, c'est qu'on prétend vous présenter une vision du monde, une histoire du monde, une histoire contemporaine, et tout ça simplifié à l'extrême, mais ça peut fonctionner. Ça peut, pour quelqu'un qui a un esprit considérant que tout n'est qu'un éternel rapport de force, c'est un peu ce qu'on nous apprend en physique, action, réaction, il peut, avec cette grille de lecture, penser comprendre le monde, qui est autrement plus complexe que ça. Mais pour des gens qui souvent ont été déscolarisés très tôt, qui sont en recherche d'identité, qui sont issus de milieux prolétaires, bien souvent n'ayant pas accès à une culture forcément diversifiée ou très vaste, ça peut fonctionner. Pour des gens qui ont un sentiment de revanche à avoir vis-à-vis d'une société qu'ils considèrent ne pas les avoir intégrés, ça peut fonctionner. Des gens qui sont fâchés avec leur citoyenneté, nous avons, il y a 2 ans de ça, fêté les 30 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Et je peux vous dire que 32 ans après, on a encore mal aux pieds. Donc, finalement, la nature détestant le vide, tout ce discours républicain d'accès à la citoyenneté, d'accaparation et de sentiment d'appartenance à celle-ci, a laissé place, puisqu'il n'a pas été fait, à mon sens, de façon suffisamment globale ou peut-être plus objectivement terre à terre, sans grandes idées, mais en donnant aux jeunes la capacité de se prendre en charge, monter des projets, faire des choses qu'ils puissent penser, concevoir, réaliser et faire.
Aujourd'hui, justement, David Valla, donc vous êtes déradicalisé en prison. Oui. Aujourd'hui, vous êtes libre. Aujourd'hui, vous êtes un citoyen engagé. Aujourd'hui, vous décidez de parler. Il y a des centaines de jeunes qui veulent aller faire le djihad sur le territoire français et partout en Europe. Qu'auriez-vous envie de leur dire?
De ne pas y aller, tout simplement. Ce qui les attend sur place n'a rien de divin. Ils peuvent être emportés par un enthousiasme au sens étymologique, être portés par une mission divine, mais sur place, il n'y a rien de divin. Le message qui peut être divin à la base se confronte à une sociologie de la guerre qui est particulière à la Syrie. Et plus ils iront nombreux sur place, et plus ça ajoutera au chaos ambiant. Il faut bien qu'ils comprennent cet aspect-là des choses. L'escroquerie relève, à mon sens, dans la présentation d'une action qui va soulager les civils de la violence qu'ils subissent de la part de l'armée régulière syrienne. Sauf que sur place, vous allez fatalement exercer une violence supplémentaire sur les civils. C'est obligatoirement ce qu'il se passe. Vous pouvez y aller avec un élan divin, enthousiaste, mais sur place, vous ne ferez jamais autre chose que d'appartenir à un groupe qui lui répond à des objectifs géostratégiques, à des objectifs politiques de captation du pouvoir et d'un rapport de force. On a des cas de jeunes qui sont partis, se retrouvant dans des unités, se combattant entre elles. C'est ce qui se passe sur place. On a des hégémonies qui veulent se mettre en place. Donc la première escroquerie est là. Ils pensent aller sur place et rendre service aux civils, mais ils vont exposer les civils à une violence supplémentaire. Et il n'y a rien de divin là-dedans. Il n'y a rien qui puisse apporter de l'orgueil à un croyant le jour du jugement dans la commission de crimes contre des civils. Jamais. On ne peut pas se pointer devant Dieu, lorsque l'on est croyant, avec un tribut relevant de crimes perpétrés contre des civils. Impossible. C'est vraiment là qu'ils doivent comprendre que le danger se situe là. C'est un premier point. Le deuxième, c'est que cette escroquerie du martyr, parce que c'est ni plus ni moins que ça, nous savons aujourd'hui, lors des opérations subversives terroristes des années 70, que ceux qui les mettaient en place avaient pour grande difficulté, la difficulté majeure, était de rapatrier les équipes qu'on envoyait perpétrer des attentats. Ça n'était pas la commission des attentats en eux-mêmes qui était difficile, mais de rapatrier les équipes. Avec cette histoire de martyr, l'équation est résolue. Les idéologues qui vendent ça aux gamins font l'économie de la télécommande. C'est aussi cynique que ça. On les envoie au charbon. À partir du moment où le premier coup de feu a été tiré, ils basculent dans un tunnel mortifère qui les mène à leur mort. C'est un peu le bingo pour les idéologues parce qu'ils n'ont plus à mettre sur place des planques, des réseaux, des faux papiers et des moyens pour rapatrier les jeunes qui passent à l'action.
Que faites-vous maintenant ?
Je suis chargé d'affaires dans l'industrie. Mais je me demande si je ne serais pas plus utile à mon pays en participant le plus possible à des conférences avec des jeunes. Je sais que le public concerné est celui de nos collégiens et de nos lycéens et que la nature humaine veut que si vous teniez ce discours au mot près, vous n'auriez peut-être pas le même impact sur cette jeunesse-là. Mais je jouis entre guillemets d'une légitimité à en parler puisque je sais de quoi je parle.
Merci beaucoup, David Valla.
Merci à vous.
Merci à Éric Boissé, Alice Coe, Mélodie Royer, Corinne Amard, Julien Rosa. Vous écoutez France Culture, les ateliers de la nuit.